Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le 9e round des négociations entre le gouvernement congolais et la SC1-23 s'est achevé vendredi 17 avril à Montreux, en Suisse. 5 jours de discussion sous l'égide de plusieurs partenaires internationaux, dont le Qatar, les États-Unis, la Suisse, l'Union africaine, le Togo, avec la participation de la MONUSCO. Les deux parties se sont accordées sur plusieurs points, à savoir la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu. Le gouvernement et la FCM23 se sont accordés à garantir un accès rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire, tout en insistant sur la nécessité d'éviter tout détournement ou instrumentalisation de l'assistance vitale destinée aux populations déplacées. Cependant, aucun accord n'a été trouvé sur un point, notamment sur la question judiciaire et l'accès humanitaire. Sur le plan judiciaire, le gouvernement congolais a refusé la demande de la FCM23 consacrée à la levée des condamnations à mort visant certains de ses membres, ainsi que l'abandon des poursuites contre d'autres. Si Kinshasa souhaite la réouverture de l'aéroport international de Goma, fermé il y a plus d'une année, les mouvements de la FCM23 redoutent une utilisation militaire de cette infrastructure stratégique. Quel est-il faire des conclusions issues de ce 9e round des négociations entre le gouvernement congolais et la FCM23? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans ce studio Caroline Zanzou Kasivita. Il est député national élu des Beni Territoires. Il est vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, honorable Caroline Zanzou Kasivita.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi, bonsoir à mon co-débatteur, à tous les co-débatteurs de ce soir.
Oui, et en face, on a Nico Mayengele, il est avocat, il est président de la commission Justice, Droits Humains et Démocratie de la coalition Lamuka. Il est également président du parti politique Le Congo Normal. Bonsoir Nico Mayengele.
Bonsoir très cher journaliste, bonsoir à l'honorable qui est en face de moi et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi. Merci beaucoup pour l'invitation.
Je vous en prie. Rigen Miviri, lui il est en ligne, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Bonsoir Rigen Miviri.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Nous l'avons dit, le 9e round des négociations entre le gouvernement congolais et la FCM23 s'est achevé vendredi 17 avril à Montreux en Suisse. 5 jours de discussion sous l'égide de plusieurs partenaires internationaux, dont le Qatar, les États-Unis, la Suisse, l'Union africaine et le Togo, avec la participation de la MONUSCO. Plusieurs avancées sont enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord signé à Doha en novembre 2025, notamment la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu. Les détails avec Marcel Papi-Moukeba.
Dans le communiqué final, les gouvernements congolais et la FCM23 ont réaffirmé l'urgence de fournir une assistance vitale aux populations affectées par les conflits dans l'est du pays. Les deux parties s'engagent à respecter les droits internationaux humanitaires, protection des civils, des infrastructures essentielles et des acteurs humanitaires. Autre engagement, faciliter un accès rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire. Objectif, éviter tout détournement ou instrumentalisation. Sur les terrains sécuritaires, un mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu sera bientôt déployé. Les premières missions sont attendues d'ici une semaine avec l'appui logistique de la MONUSCO. Les deux camps s'engagent également à libérer des détenus dans un délai de 10 jours. Au total, 311 détenus du côté de l'AFCM23 et 116 du côté gouvernemental. Mais l'AFCM23 et le gouvernement ne sont pas parvenus à conclure le troisième protocole de l'accord cadre consacré à l'accès humanitaire et à la protection judiciaire. Au cœur des divergences, notamment la réouverture de l'aéroport international de Goma et la levée des condamnations à mort visant certains membres de la FCM23. L'accord cadre, signé à Doha entre les deux parties, prévoit 8 protocoles, mais jusque-là, celles des ont été formellement conclues. Beni, Martial Papimouteba, Radio Okapi.
Merci beaucoup à vous, Martial Papi Moukeba, Kalinzan Zoukasevita, député national élu des Beni Territoires. Vous êtes vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Et quelle lecture vous faites de ces conclusions de ces 9e round de négociations entre le gouvernement congolais et la FCM23 qui se sont tenues à Montreux en Suisse?
Oui, bonsoir. Il faut d'abord souligner que nous sommes dans un contexte de la logique de tous les accords qui ont été signés sur la question de la paix en RDC. Il faut souligner d'abord que il y a eu un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi il y a eu des discussions et un accord à Doha entre la République démocratique du Congo et l'AFC-M23. Cela s'inscrit dans la recherche de la paix et de la sécurité dans notre pays. Notre président de la République l'avait toujours dit, que la résolution de la crise à l'Est s'inscrit dans une approche multidimensionnelle. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé en Suisse s'inscrit dans cette même logique. C'est la raison pour laquelle mon analyse va être axée sur les aspects de la discrimination. Je pense, sans pouvoir se tromper, que les assises de la Suisse peuvent être analysées d'une manière divergente en fonction des informations qu'on a. Moi, je pense que effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées au regard du communiqué qui a été fait. Il faut avouer que contrairement à d'autres discussions à Doha, il n'y a pas eu blocage. Les AFC-M23 et le gouvernement ont pu discuter 5 jours durant. Certes, ils ont passé beaucoup de temps à réexaminer les arriérés diplomatiques qu'ils ont pu discuter. Mais aussi, ils ont convenu que pour l'avenir, il faut faciliter l'accès humanitaire, ce qui est un aspect important. Je l'ai toujours dit ici, que la population qui se retrouve dans les zones sous contrôle de la rébellion 23, s'il faut le dire comme ça, c'est une population congolaise. On ne peut pas fermer les yeux sur le sort de cette population. Et pour ça, moi, je pense que c'est une avancée assez significative de pouvoir réfléchir comment continuer à aider cette population.
Justement, comment ça va se passer dans les concrets lorsque les deux parties, n'est-ce pas, se sont engagées à garantir un accès, comme vous le dites, rapide.
J'y vais. Oui. Ils ont aussi convenu, les parties, ils ont convenu sur la surveillance du cessez-le-feu. Mm-hmm. Parce qu'au fait, si vous regardez aujourd'hui les avancées qu'il y a, on a impliqué le mécanisme de vérification conjointe. Mmh. Ce mécanisme va permettre effectivement de renforcer la confiance et cela va permettre effectivement la circulation des acteurs humanitaires parce qu'au moins la MONUSCO, qui n'était pas totalement impliquée dans les discussions à Doha, la MONUSCO a été associée en Suisse et en coordination avec la CRGL, la MONUSCO va assurer effectivement la vérification ou la surveillance du cessez-le-feu. C'est un aspect important qui va permettre...
Deux points qui sont intimement liés.
Oui,
l'accès à l'aide humanitaire et puis la surveillance du cessez-le-feu.
C'est un aspect qui va permettre que les acteurs humanitaires aient confiance à circuler dans la zone d'abord sous occupation par l'M23 et automatiquement ça va permettre à ce que la population ait accès à l'aide humanitaire. Et donc, pour moi, je crois que ces deux aspects sont à considérer comme des avancées. Mais il faut aussi avouer que malgré l'absence de l'accord sur les judiciaires, mais il y a eu des pourparlers techniques sur la libération de certains prisonniers.
S'il faut revenir sur la question humanitaire, l'accès à l'aide humanitaire, ils se sont engagés à garantir un accès rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire. Mais entre-temps, le M23, n'est-ce pas, a refusé la réouverture de l'aéroport de Goma. Vous ne pensez pas qu'il sera difficile de garantir un accès rapide et sûr à cette aide humanitaire dès lors que on refuse de permettre à l'aéroport de Goma, n'est-ce pas, de reprendre ses activités.
Moi, je crois qu'on est déjà sur des points qui vont permettre que l'M23 puisse accepter l'ouverture de l'aéroport de Goma. Déjà, ils viennent d'accepter le principe de faciliter l'aide humanitaire. Parce qu'à un moment donné, l'M23 n'était pas d'accord avec le principe. L'M23, AFC M23, vient d'accepter le principe. Et la question de la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington, mais aussi d'autres accords comme l'accord de Doha, va contraindre l'M23 à accepter. Je ne suis pas là pour essayer peut-être d'anticiper ce qui va arriver, mais l'M23 n'aura plus de choix de refuser de se cacher derrière d'autres aspects militaires ou politiques pour refuser l'accès à l'aide humanitaire. Parce que l'M23, s'il refuse l'accès à l'aide humanitaire, va continuer effectivement à violer les engagements qu'il prend à l'international. Et je pense qu'aujourd'hui, l'M23 a besoin d'un peu de crédit pour qu'il continue à être sur la table de négociation avec le gouvernement.
Voilà, vous évoquiez déjà cette question de libération des détenus.
Effectivement, au-delà de l'absence de l'accord, il y a déjà des discussions sur comment à libérer certains détenus de part et d'autre. Il y en a du côté M23, mais aussi il y en a aussi du côté gouvernement. Ces questions vont permettre effectivement à renforcer la confiance entre les parties au conflit, et nous avons besoin de ça comme pays, parce qu'en fait il faut permettre que la paix puisse revenir dans cette partie de la République.
Mais ça paraît quand même paradoxal, hein, dès lors qu'on voit les deux parties accepter la libération des détenus, mais du côté du gouvernement congolais, on refuse la levée des condamnations à mort visant certains membres de la FCM 23 ainsi que l'abandon des poursuites. N'est-ce pas une sorte de contradiction?
Bon, moi je pense que tout est fonction de la stratégie. De toute façon, il faut regarder la question de la justice. C'est d'abord une question relative aux lois de la République. Et d'une façon politique, je ne pense pas que les négociateurs du gouvernement pouvaient accepter d'une façon globale que cette question soit résolue sur papier. Il faut regarder les cas. Et il faut examiner effectivement les dossiers individuels de chacun pour que le gouvernement puisse donner une option à ce qui concerne la libération des détenus, parce que tout le monde n'est pas condamné pour le même fin. Je crois que c'est aussi stratégique pour le gouvernement.
Merci Nico Mayengele, avocat. Vous êtes président de la commission justice, droits humains et démocratie de la coalition Lamuka. Vous êtes également président du parti politique Le Congo Normal. Comment vous comprenez les différentes conclusions des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23?
Merci beaucoup, très, très cher journaliste. J'ai religieusement suivi l'honorable parler. Je crois savoir que nous, au sein de Lamuka, nous avons toujours estimé que la question de la paix à l'est du Congo, c'est une question qui concerne la République démocratique du Congo d'abord. Et les conclusions autour d'une question d'une telle ampleur ne peuvent en aucun cas, ni d'aucune manière, être parcellaires. La démarche, elle est déjà faussée dès le départ. Elle est erronée. Parce que pour nous, la Mouka, pour nous, Congo normal, nous estimons que pour résorber la crise congolaise, il va falloir mettre en place une approche holistique. Le gouvernement en place est en train de procéder de manière sélective, croyant résoudre un problème beaucoup plus global avec des partenaires qui ne les sont pas. Pour nous,
les conclusions... Approche holistique globale, vous voulez dire quoi par là? Il faut faire quoi? Il faut tenir compte de toutes les dimensions de la question?
Oui, bien sûr que oui, puisque je suis en face de l'honorable... qui est chargé entre autres de questions de défense au sein du Parlement. Il ne va pas ignorer que, au regard des statistiques telles qu'avancées par, en fait, les données telles qu'avancées par le PDDRCS, au Congo, à l'est principalement, il y a plus de 200 groupes armés. Là, on est en face d'un seul groupe armé. Il y a plus de 200 groupes armés. Comment peut-on résoudre un problème aussi crucial, aussi global, qui concerne plus de 200 groupes armés avec un seul groupe armé? utile soit-il. Parce que, rappelez-vous à l'époque, lorsqu'ils ont été à Nairobi, au Kenya, les processus concernaient tous les groupes armés. Et quand on a été au Luanda, en fait, en Angola, c'était un processus entre États, Rwanda et la RDC. Et à Washington, là, c'est les partenariats bilatéraux entre la RDC et les États-Unis d'une part, et les accords entre la RDC et les Rwandais d'autre part. Mais sur le plan interne, vous constaterez que cette question de la crise congolaise, sur le plan holistique, en termes d'approche, doit entre autres impliquer non seulement les groupes armés, mais aussi la société civile. Comment peut-on résoudre un problème loin du lieu où se commettent les crimes? Il y a des victimes directes et indirectes qui doivent être impliqués dans les processus. Donc on n'a pas besoin d'une paix octroyée. On a besoin d'une paix pour pacifier réellement les esprits, les cœurs des uns et des autres. Il s'agit du Congo. Il ne s'agit pas d'une affaire entre gouvernements et M23. Troisième élément qui entre en ligne de compte.
Et à votre avis, ça se passerait où? Pour que les choses se passent bien, pour qu'on tienne compte de toutes les parties, notamment les victimes, ça devrait se passer où? Pas à l'étranger, mais au Congo.
Mais la crise, elle est congolaise. La crise sévit à Goma. Ça sévit à Bukavu, ça sévit à l'Est, même au centre, il y a encore des problèmes en termes de sécurité, à l'Ouest aussi. Donc il faut impliquer non seulement les groupes armés, comme je l'ai dit, la société civile, les victimes indirectes et directes, mais aussi le pouvoir en place, qui est l'une des parties prenantes à la crise. Et également la société civile, en fait, l'opposition politique dans sa globalité. Donc nous sommes de l'opposition politique, nous avons des revendications. Nous disons qu'il y a crise de légitimité, par exemple, au regard des institutions et de leurs animateurs. Voilà pourquoi le meilleur cadre, le cadre idéal pour pouvoir discuter de toutes ces questions, s'avère les dialogues nationaux inclusifs. Parce que comment les gouvernements refusent de dialoguer avec toutes ces composantes de la société, mais préfèrent de ne dialoguer que avec le M23. Or, en termes de la théorie des sissiparités, ils peuvent trouver un compromis avec le M23. Demain, il y aura une autre branche qui va se réclamer peut-être des M26. Donc voilà pourquoi on ne peut pas traiter une telle question suivant l'approche telle que adoptée par les pouvoirs en place. Encore que...
Est-ce que ce n'est pas une méthodologie qui peut se comprendre dans ce sens que la situation est tellement complexe qu'il faut commencer par un processus qui va étape par étape. C'est-à-dire qu'on commencerait par régler les problèmes avec un groupe armé et peut-être qu'avec le temps, on finira, n'est-ce pas, par associer tout le monde comme vous le souhaitez.
Non, ça c'est votre raisonnement.
C'est un processus.
C'est votre raisonnement. Le commencement
d'un processus. Vous... Ça peut aboutir à ça, n'est-ce pas?
Non, quand on gère, il faut décliner le besoin. Ici, cher journaliste, je ne vous apprends pas. Le gouvernement est en train de fausser la démarche. Lorsqu'on négocie, la première des choses, je reviens sur ça, c'est d'abord les statuts de négociants, les gens qui négocient. Quand les gouvernements négocient avec l'M23, regardez tous les accords qu'ils signent. L'intitulé, c'est quoi? Les gouvernements de la République et les mouvements M23-AFC. Donc le gouvernement et les M23-AFC se sont mis sur un même pied d'égalité. Donc, sur le plan des statuts de gens qui négocient. Donc, les M23, son statut, c'est comme si c'était une républiquette, c'est comme si c'était un gouvernement parallèle, il se pose un sérieux problème. Voilà pourquoi les conclusions de ces 9e round vous donnent à croire qu'il s'agit de deux partenaires égaux. Comment peut-on procéder à la vérification conjointe? Les mécanismes de vérification du cessez-le-feu, il est conjoint entre le gouvernement et le M23. Et cet aspect des choses légitime le M23, qui à l'époque était considéré comme un mouvement terroriste. Mais un mouvement terroriste, aujourd'hui, va procéder à la vérification du mécanisme de cesser les faits avec un gouvernement officiel ou un gouvernement entre guillemets légitime. Ça pose un problème en termes du statut de gens qui négocient. Deuxième élément de réflexion. Vous constaterez que le M23 négocie en position de force. Parce que quand on négocie, il faut évaluer les rapports des forces sur terrain. Le M23 occupe Goma et Bukavu, principalement les deux villes, ça fait un bout de temps. Depuis que Bounagana a été pris jusqu'à ces jours,
Si vous faites l'évaluation en termes des rapports des forces sur terrain, les M23 viennent en négociation en ayant par des verres soit des grandes villes, là où ils perçoivent les taxes, ils ont mis les systèmes de sécurité, défense. Le gouvernement va négocier pendant qu'on n'a pas pu récupérer les deux grandes villes. Imaginez-vous s'il n'y avait pas pression américaine, ils auraient aussi ouvert. Et là, les informations sur le terrain font état du fait que les M23 s'étaient retirés à quelques kilomètres, mais ils sont dans les villages sur Plomba ou Vira. Donc ils peuvent reprendre Ouvira à tout moment. Pendant qu'ils négocient en Suisse, les 14 au 10, du 14 au 17, mais je vous apprends que les 19, il y a eu un autre massacre. Il y a eu des attaques. Mais ici, les gens négocient qui ne sont pas sincères dans leur démarche. Ils veulent gérer simplement la crise, geler la crise, prendre du temps. En réalité, ils se sont accordés sur les statu quo. C'est-à-dire, les gouvernements gèrent là où ils gèrent, les M23 gardent les provinces occupées, et avec l'appui, ne cachons pas les choses, avec l'appui du Rwanda. Donc les conclusions telles que présentées, ils se sont mis d'accord sur les désaccords. Donc il n'y a pas de solution en termes d'accès à l'aide humanitaire, encore que lorsque vous interrogez les faits sur terrain, quand il y a eu attaque au village de Mikenge, qui est sous contrôle de FRDC le 19 avril, sous contrôle de FRDC avec les Wazalendo, à 12 kilomètres de la commune rurale de Minembwe, il y a eu au moins 10 morts, à 12 morts selon la société civile, en fait la société civile locale. Et il y a eu encore un autre camp de réfugiés qui a été créé récemment, je crois, au Burundi, avec au moins 70 000 Congolais qui se sont déplacés, qui ont fui la guerre. Pendant qu'ils négocient, ici, les questions humanitaires se posent avec beaucoup d'acuité. Et dans les camps récemment créés au Burundi, les camps des réfugiés Boussouma, là, on manque de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas où mettre la tête. Pendant que les gouvernements ici vous disent, écoutez, nous, je ne fais pas d'accordement frauduleux, nous allons recevoir les migrants qui viennent des USA, mais nos propres réfugiés qui sont dans les pays voisins, vous avez les réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, qui manquent de tout et de rien. Ils pouvaient très bien se mettre d'accord sur cette urgence humanitaire. Parce que pour nous, la Mouka, il faut un plan d'urgence humanitaire. Justement, nous devons sauver les vies humaines.
Justement, ils se sont engagés, les deux parties se sont engagées à garantir un accès rapide, sûr et sans entrave, n'est-ce pas, à l'aide humanitaire. Donc ils ont pensé aux populations en détresse dans la partie est du pays, sur les territoires congolais, et aussi hein, ces populations qui sont allées se réfugier dans les pays limitrophes.
Moi, je vous fais voir que je suis en contact avec nos réfugiés qui sont dans les camps Boussouma, au Burundi. Et même la prise en charge au niveau du HCR pose problème. Elle n'est pas effective. Ces gens réclament qu'ils rentrent chez eux. Nous avons assez d'espace. Nous pouvons aménager des espaces pour récupérer nos propres réfugiés qui sont à l'étranger et caser à l'interne du pays pour prendre soin d'eux. Merci. Puisque là, il se pose un problème, cher journaliste.
Merci. Regan Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Quelle est votre lecture à vous également des conclusions issues de ces 9e round des négociations entre le gouvernement congolais et la CM23?
Voilà. Tout d'abord, il est important de dire qu'il s'agit d'un communiqué. Donc, il n'y a pas eu un protocole de plus signé. Mm-hmm. Les autres questions qui ont été évoquées, notamment la question de l'accès humanitaire, la question du mécanisme de vérification. C'est juste des quelques ajustements pour répéter ce qui avait déjà été dit, mais surtout pour intégrer les deux parties au conflit dans la vérification du CCF. Donc, en gros, c'est pas de grands changements structurels par rapport à ce qui avait déjà été discuté. ce qui justifie qu'il n'y a pas eu de grandes discussions, parce que au moins avant même que les acteurs n'arrivent autour de la table, ils étaient déjà d'accord sur le fait que les deux parties doivent être réintégrées dans le mécanisme de vérification. Et sur la question humanitaire, il y avait déjà des discussions, mais là encore, il faut préciser que ils étaient censés signer un protocole humanitaire, mais ils ne l'ont pas signé, donc il s'agit d'un communiqué, et on ne pouvait pas dire que un accord est vérifié par un communiqué. Donc le fait qu'on n'a pas pu avoir un nouveau protocole dessiné signifie quelque chose, signifie qu'il a fallu quand même dire qu'il y a eu des discussions et qu'il y a des résultats, mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a, un blocage, et le blocage, c'est sur l'essentiel de l'aspect humanitaire, de l'accès humanitaire, qui était la réouverture de l'aéroport de Goma, qui a été conditionné par aussi la réouverture de banque par le M23. Et bien sûr, d'autres questions un peu individuelles sur des condamnations des uns des autres membres du M23 ou de l'AFC. Donc, vous voyez par cela que il y a réellement un blocage, et on a comme l'impression qu'on est en train de toucher le plafond de verre dans ces discussions, et on risque de rester dans une sorte de discussion façade, de faire en sorte que bon voilà, on continue à avoir un cadre où on peut se parler tout en continuant à se battre sur le terrain.
Et donc pour vous, il n'y a pas d'avancée.
C'est la crainte de beaucoup de...
Pour vous, il n'y a pas d'avancée, c'est plutôt, on peut dire qu'ils font du sur place.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de grandes avancées, mais bien sûr, le seul avantage d'avoir ces discussions, c'est que elles ont juste lieu, et ça veut dire qu'elles peuvent continuer. Et surtout, on a vu que la table s'est un petit peu élargie par d'autres acteurs, notamment l'hôte de ces discussions qui est la Suisse. C'est intéressant de l'avoir dedans. Nous savons la neutralité de ce pays et le rôle qu'il peut jouer, notamment sur des questions de droit international humanitaire. Même si là aussi, d'ailleurs, pour tous les praticiens de ces domaines du droit international humanitaire, il y a quelque chose qui est gênant, étant donné que on est en train de faire passer des prescrits du droit international humanitaire qui sont d'ordre public, comme si c'est des choses sur lesquelles les partis doivent s'accorder. La question de l'accès humanitaire, la question de ne pas cibler des infrastructures civiles, c'est ceux du droit international humanitaire, c'est des prescrits des droits humains, et les partis n'ont pas à accepter de s'y soumettre. C'est du droit, et ils sont obligés de s'y soumettre.
Voilà.
Donc, voir qu'on présente cela comme des résultats de ces discussions, pour moi, je pense que c'est quand même, dans une certaine mesure, une façon de nous dire qu'il n'y a pas de grandes avancées.
Voilà, il y a quand même certains points qu'il faut relever, hein, certains points qui paraissent comme des contradictions. Les deux parties se mettent d'accord pour garantir un accès rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire, mais les M23 refusent la réouverture de l'aéroport de Goma. Et de l'autre, les deux parties s'engagent à libérer les détenus, les gouvernements congolais, n'est-ce pas, refusent la levée des condamnations à mort visant certains membres du M23, ainsi que l'abandon de certaines poursuites judiciaires. Comment vous comprenez cela? On a l'impression qu'il y a une sorte de contradiction. Vous prenez tels engagements, mais après vous refusez, n'est-ce pas, de prendre des décisions qui peuvent permettre à ce que ces engagements-là soient mis en application et tout ça, voilà. Comment vous comprenez cela?
Voilà, sur le premier point, je pense que, bien sûr, la contradiction est là. Quand on dit accès sans entrave avec l'aéroport, on ne veut pas l'ouvrir, ou bien qu'on puisse refuser le retour ou l'accès au système bancaire, je pense que, de toute part, il y a quand même une contradiction, parce que comme l'ancien gouverneur le rappelait ici, les populations qui vivent sous le joug du M23 n'ont rien demandé. Donc s'ils ont leur argent, dans les banques, ils devraient avoir des possibilités d'y accéder. Ces régions, ça reste la RDC, et donc le système bancaire congolais pouvait s'appliquer à tout le monde, parce que même dans ces zones-là, ils n'ont pas changé de monnaie, ça reste les francs congolais. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne pouvait pas avoir des aménagements sur cette question-là. On nous parle de la souveraineté, mais la souveraineté, c'est sur un territoire, et ce territoire-là reste le territoire congolais. Donc, ça serait d'ailleurs un message pour rappeler que non, ici on reste au Congo. Goma c'est le Congo, Bukavu c'est le Congo. L'aéroport, l'ouverture de l'aéroport, c'est la même chose, c'est l'espace aérien congolais. Donc je ne vois pas, bien sûr c'était la porte d'entrée, c'était dire que voilà, c'est l'accès humanitaire, mais l'accès humanitaire signifie aussi l'accès aussi pour des vols civils, parce que il y a des gens qui sont malades et qui n'arrivent pas à quitter Goma, il y a des gens qui n'ont pas accès aux documents genre passeport pour aller à l'étranger, et donc peut-être au travers d'un aéroport congolais, ils pouvaient utiliser leur carte d'électeur et aller jusqu'à Kinshasa pour obtenir ces documents. Donc c'est aussi humanitaire. Donc quand on parle de l'accès humanitaire, on doit le voir dans son cadre le plus global et le plus large. Et donc toutes ces questions, ce sont des entraves quand même aux droits humains et l'accès humanitaire. Ensuite, sur la question de poursuite, ben là par contre, je serais d'accord avec ce qui a été dit avant. C'est clair que il y a un système judiciaire qui doit marcher, et même au travers des discussions à Doha, on ne peut pas prendre la place du système judiciaire congolais. S'il y a des poursuites qui sont en cours, il doit y avoir des décisions judiciaires, et c'est par la suite qu'on peut parler de procédures comme grâce présidentielle ou amnistie, j'en passe, mais tout ça encore une fois dans le strict respect des droits humains, mais aussi dans le droit international et humanitaire. Mais sur des questions, par exemple, des gens qui sont en prison ou en détention irrégulière, ce qui est aussi beaucoup des cas, des gens qui sont en Dolo ou dans d'autres lieux de détention, je pense que ce n'est que justice que ces questions soient revues et que l'on puisse voir dans quelle mesure ces personnes peuvent recouvrer leur liberté si jamais il n'y a pas de faits infractionnaires qui sont retenus contre ces personnes. Et je pense que sur ce plan-là, il y avait quelques avancées, notamment avec une liste révisée des personnes qui pourraient bénéficier de ces mesures-là. Et je pense que voilà, il y a un travail technique qui a été fait, mais la question reste l'application des engagements des uns des autres.
Oui, Regan Ivirik, que répondez-vous à l'opposition qui estime que ces questions ne devaient pas être abordées de manière sélective, mais plutôt on devait utiliser une approche holistique?
Holistique, oui, mais par exemple, les questions de cesser le feu, c'est des questions entre les belligérants. Donc, on va pas venir rajouter la mouka sous la question de cesser le feu parce qu'il n'est pas une partie au conflit, par exemple, juste pour ne citer que ce parti. Mais je suis d'accord qu'il y a d'autres questions, notamment, on parle de 6 autres protocoles qui doivent nécessairement recueillir l'assentiment du peuple congolais en général. Donc, je ne vois pas sur base de quelle légitimité, que ce soit le gouvernement congolais ou le M23, qui puisse discuter de la forme de l'État, par exemple. Ils ne sont ni légitimes, ils n'ont ni le mandat de discuter de ces questions-là, parce que ce sont des questions qui touchent la constitution de l'État congolais et surtout des articles intangibles. Et ça, c'est une discussion qui ne peut se passer que dans un cadre plus large et qui nécessite un consensus national. C'est pour ça je pense aussi qu'il y a beaucoup de questions qui devront attendre une discussion plus large, peut-être dans le cadre d'un dialogue inclusif.
Merci.
Et aussi dans le cadre des institutions. On ne peut pas imposer à tout un peuple des arrangements particuliers entre deux parties qui vont au-delà de prescrits de notre constitution.
Merci, merci. Nous allons maintenant écouter les points de vue des auditeurs qui sont en train d'appeler pour intervenir dans cette émission. Honorable Caroline Zanzou Kasevita, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga au Kasai central. C'est Anaclé Ngandou.
C'est M. Anaclé Ngandou Bota depuis la ville de Kananga au Kasai central. Nous saluons l'organisation de la dite rencontre entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 par la médiation des partenaires. Mais j'ai une inquiétude sur le manque d'une communication très claire, sur les points clés abordés après plusieurs jours de négociations. Je ne prédis pas l'échec des négociations parce que certaines recommandations sont rejetées par l'un ou l'autre camp. Alors, qu'est-ce que l'opinion publique congolaise doit retenir? Nos yeux sont là pour observer comment se déroulera la prochaine étape de la mise en œuvre du cahier des charges, parce que nous sommes habitués à assister toujours au dialogue entre les deux parties sous la médiation des États-Unis, Qatar et autres partenaires, mais les résultats sur terrain dans les zones sous occupation est très médiocre.
Oui, honorable Caroline Zanzou Kasevita, c'est vrai que le gouvernement ne communique pas assez par rapport à ces négociations qui se déroulent, en fait, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, des processus des Doha. Il n'y a pas assez de communication de la part du gouvernement. Et voilà, c'est cet auditeur qui vous demande qu'est-ce que l'opinion peut retenir de toutes ces négociations.
D'abord, il faut retenir que toutes ces négociations n'ont pas encore été concluantes. C'est pourquoi, effectivement, il y a encore tous ces processus et même des protocoles qui ne sont pas encore signés. En fait, nous devons comprendre que nous avons été agressés par les Rwandais. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec mon frère de Lamouka qui pense qu'il faut, effectivement, pour ces questions stratégiques, appeler tout le monde sur la table. Je ne pense pas que la Mouka a le même prétention que les Rwandais. J'ai commencé par mes mots introductifs en disant que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Suisse, c'est la suite, la conséquence logique de l'agression rwandaise. Parce qu'effectivement, la République démocratique du Congo, sous la médiation des États-Unis, nous avions accepté de résoudre pacifiquement à nos questions de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les relations entre nous et les Rwandais devraient s'améliorer à la suite de toutes ces discussions. En discutant avec le M23, tout le monde sait que c'est le proxy effectivement du Rwanda et beaucoup de prétentions du M23 sont liées à la politique expansionniste du Rwanda. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas associer les autres Congolais sur ces questions, sur le plan en négociation, mais le président de la République l'a toujours dit que la dimension politique devra suivre. Et il a toujours dit ici que nous avons besoin des Congolais, effectivement, qui ne sont pas dans la philosophie de l'agression rwandaise. Et je crois que c'est important pour nous tous de le savoir. Et je crois que la MUCA n'est pas dans cette logique d'aller consolider les prétentions du Rwanda. La MUCA souhaiterait, évidemment, je suppose, que la MUCA souhaiterait qu'effectivement la paix puisse être rétablie sur l'ensemble de notre pays, tout en gardant notre souveraineté, tout en contrôlant notre espace territorial, Goma et Bukavu. C'est la raison pour laquelle l'opinion congolaise devra comprendre effectivement que nous sommes dans un processus. Et les rendez-vous de Suisse n'est pas la fin des négociations. Il y aura encore d'autres négociations avec les 23. J'ai souligné qu'il y a eu quelques avancées parce qu'en fait, il faut avouer qu'il faut encourager ces discussions entre les gouvernements et le AFC A23.
Et que répondez-vous à l'analyste Rigan Viviri qui estime qu'il n'y a pas eu d'avancée, qu'on fait les sur place?
Je crois que notre frère Rigan souhaiterait effectivement qu'il y ait des avancées sur le plan politique. Je l'ai bien dit qu'il y a des questions politiques qui n'ont pas été abordées, mais il y a eu des avancées à terme de discussions, parce qu'il faut avouer qu'après la signature de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a eu des hostilités à Uvira. On a eu des morts à Uvira. Et la situation s'est détériorée. Et la confiance qui devra nous permettre effectivement d'avancer, il faut la rétablir.
Mais après montrer en Suisse, il y a aussi des combats aujourd'hui, n'est-ce pas, entre les M23 et les Watalengo.
Cette situation de jouer sur la question de la gâchette de la négociation, on la connaît, c'est la tactique de l'armée rwandaise. Mais l'essentiel pour nous, c'est que la question amène le soutien de beaucoup de gens. Pour votre information, au niveau de la Suisse, les USA ont été médiateurs. Pour une fois, ils ont pris la question en main. Erigen a ajouté un aspect, on a ajouté la Suisse. Aujourd'hui, la MONUSCO, qui était orgé, qui représente la communauté internationale, est aujourd'hui observateur, en coordination avec la CRGL. Et donc, au niveau de la région aussi, au niveau de la région, la question est en train d'être prise en charge. Ce qui me conduit à dire, ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, comparativement avec les discussions qui se faisaient à Doha, où c'était pratiquement un vase clos entre le gouvernement et les 23, aujourd'hui ces discussions s'élargissent au niveau de la région avec des acteurs internationaux assez crédibles. Et je crois que, c'est pourquoi j'ai dit, je pense que nous allons faire un pas vers l'avancée, et le 23 devra permettre que l'accès humanitaire puisse être réalisé au niveau de notre pays.
Merci Nico Mayengele, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kindu au Maniema, c'est Monsieur Munanga.
Je suis Jacques Munanga à partir de Kindu Maniema. Le gouvernement congolais doit savoir qu'il est en phase d'une négociation avec le mouvement M23. Et celui qui négocie avec quelqu'un d'autre présente l'état d'une faiblesse. En cet état de cause, le gouvernement congolais ne devrait plus imposer son vouloir à la partie adverse qu'il allait mater depuis belle irette. Faute d'incapacité, c'est pourquoi la négociation, alors la prise de position de M23, est peut-être motivée par l'occupation des deux provinces du Nord et du Sud Kivu, où il impose son pouvoir. Et si l'État congolais veut unifier le pays, il n'a que le choix d'accepter l'annulation de la peine de mort infligée à certains cadres de son mouvement, qui peut-être d'ailleurs serait l'une des causes aggravantes et du radicalisme de la rébellion M23. Merci.
Maître Nico Mayengele.
Merci beaucoup. Je commence là où il a fini. L'annulation d'une peine de mort en tant qu'avocat n'est en aucun cas, ni d'aucune manière, être une décision politique. Il y a des procédures, il y a des voies de recours, entre autres la révision du procès. On peut faire la révision du procès, dès lors qu'il y a des faits nouveaux ou des pièces nouvelles, ça peut donner lieu à la révision de la condamnation. Je crois que le gouvernement de la République ne peut pas se comporter ou ne doit pas se comporter comme un mouvement rebelle. Le gouvernement de la République a des attributs que la loi lui donne comme gouvernement pour assurer l'intégrité territoriale, faire la diplomatie, obtenir des Nations Unies, pourquoi pas de l'Union Européenne, une décision simple. On peut imposer les cessez-le-feu. C'est un mouvement rebelle avec l'appui extérieur du Rwanda. Si on était fort diplomatiquement, on aurait dit imposer, j'ai dit bien imposer, on l'a fait en 2012 avec Obama, imposer un cessez-le-feu comme préalable pour aller aux discussions profondes, pour aller aux causes profondes de cette crise. On trouve le cessez-le-feu comme un cadre, comme un préalable pour aller aux discussions, au dialogue national inclusif. Parce que l'honorable vous dit, non, nous sommes là pour rechercher la paix. Mais après combien de temps? Vous allez passer toute une éternité pour mater soit sur le plan militaire une rébellion, soit trouver un compromis politique et avancer. Donc on ne peut pas rechercher la paix en dehors du timing, sans les résultats très bien définis. Il faut voir les politiques publiques mises en place pour obtenir quels résultats. Parce que ici, les gouvernements, à l'époque, rappelez-vous, avec le ministre Lutundula, ils avaient dit que nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Et le chef d'État vous dit, moi je ne suis pas là pour faire la guerre. Quand elle commence, on sait quand une guerre commence. Quand elle se termine, on ne sait pas. Dans un pays en guerre, de telles déclarations, ça alimente la position rebelle pour demeurer dans les hostilités. Ici, pour répondre également à l'auditeur qui a posé cette question liée aux décisions, en fait, à l'annulation des décisions judiciaires, et aussi, je raconte l'honorable lorsqu'il parle de l'agression. Nous avons été les premiers dans ces pays, nous, la Mouka, d'avoir dit que le pays est agressé, pendant que M. Félix Antoine Tshilombo était un allié de M. Kagame. À l'époque, déjà, nous l'avions dit. Il y a eu deux militaires rwandais qui ont été arrêtés. Rappelez-vous, à l'époque, c'est l'Angola qui a demandé qu'on libère les deux militaires rwandais sur notre sol. C'était l'épreuve d'agression. Mais vous avez lavé l'agresseur. Vous avez fait de l'agresseur votre allié. Lorsqu'un État est agressé, quelle est l'attitude de l'État victime d'agression? Un, cet État saisit le Conseil de sécurité en vertu de l'article 39 de la Charte des Nations Unies pour constater l'agression. Deux, l'État victime d'agression organise et fait la guerre de légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Cette guerre-là ne nécessite pas une déclaration de guerre. Puisque vous avez vu ce que l'Iran fait. Quand on viole l'intégrité territoriale, on viole votre souveraineté, on viole votre indépendance, il faut défendre la souveraineté nationale, l'indépendance et l'intégrité territoriale.
Où voulez-vous en venir? Vous souhaiteriez que le gouvernement puisse plutôt utiliser la force au lieu
de... Non, on négocie la diplomatie, la guerre, c'est un moyen de poursuite de la politique. Donc la guerre, c'est la politique sur une autre assiette. Donc on fait la guerre et on négocie. Donc on ne peut pas croiser les bras, aller négocier, laisser les M23 se renforcer. On a dit qu'il y a un camp militaire est en train d'être érigé vers Walungu là-bas, si je ne m'abuse. Il est de là. Pendant qu'on négocie, on érige les camps militaires, merci. Les camps des RDF. Je vais citer pour dire les 8 protocoles auxquels l'honorable a fait allusion. S'il vous plaît, vous avez dit que la Mouka ne peut pas être dedans parce qu'il s'agit des questions de sécurité. Non. Parmi les 8 protocoles, il n'y a pas que sécurité. Parmi les 8 protocoles, il y a des questions liées à l'appétit territorial. Il y a des questions liées à la gouvernance. Il y a des questions liées aux finances. Il y a des questions liées à la justice, aux droits humains. Quelle est la valeur juridique d'un accord qui englobe toutes ces questions à l'égard d'un peuple souverain, 120 millions de Congolais? Cet accord est nul, n'engage pas notre peuple. Merci. Voilà pourquoi nous vous disons, il faut un dialogue national inclusif autour des pères religieux avec les aspects sécuritaires. Vous pouvez négocier rien que les cessez-le-feu. Et les restes des questions doivent faire l'objet de débats de fond au moment du dialogue national inclusif.
On vous a bien compris. Monsieur Rigen Namiviri, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis la ville de Kisangani dans la Tchoupo, c'est Jacques Befonga.
Jean-Claude Fonga Malumalo, depuis Kisangani, province de la Tchopo. Mais forum de négociation a montré, sous l'égide des Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine, de l'UNESCO, tout l'arsenal diplomatique mondial est mobilisé. C'est le résultat qui nous étonne. On s'accorde sur les cessez-le-feu, mais on échoue sur l'essentiel. La justice et l'accès humanitaire sans condition. Premier constat, trop d'acteurs, trop d'agendas. Derrière les communiqués lisses se cache l'échec d'une stratégie. La multiplication de médiateurs dilue la responsabilité et prend en otage la souveraineté congolaise. Deuxième constat, on ne négocie pas l'impunité. Comment l'État peut-il lever des condamnations à mort pendant que Rutshuru et Masisi comptent encore leurs morts? Accepter cette revendication, c'est donner une prime à la rébellion et légitimer l'expansionnisme par les armes.
Rigel Misery.
Je partage une partie de son constat, et notamment sur la question de justice qui ne devrait pas être faire l'objet des transactions à Montreux, et bien sûr pour des raisons évidentes. Donc il ne s'agit pas d'aller discuter de l'impunité. On veut résoudre des questions du terrain, la question des redevabilités devait rester entière. À ce qui concerne les acteurs, on peut voir que la multiplicité des acteurs est une faiblesse, mais aussi on peut le voir comme une force, parce que bien sûr, si ces acteurs-là prennent leurs responsabilités et que ces acteurs ne sont pas que des figurants, parce que c'est une question d'être là autour de la table, et ça en est une autre de peser de tout son poids pour que les engagements soient respectés. Et je pense que cette deuxième partie là qui n'a pas beaucoup avancé peut sont prêts à peser de tout leur poids pour que les belligérants puissent respecter le cessez-le-feu pour ne prendre que cet exemple-là.
Rigel Misery, nous tendons vers la fin de l'émission. C'est quoi votre mot de la fin? Comment vous entrevoyez la suite de ce processus de pacification de la RDC?
Moi, je dirais que tous les acteurs doivent être responsables et se rassurer rassurer la population qu'en fait, à un certain moment, il faut qu'on arrive à une fin. Et donc, on ne va pas rester dans ces surplaces très longtemps. Et il faut faire en sorte que la population soit encore remise au centre de ces discussions, et que par exemple les questions d'accès humanitaire avec l'ouverture de l'aéroport, ou la question de l'accès au système bancaire ne puissent pas être de monnaie d'échange pour des questions individuelles.
Merci.
Donc, je pense qu'il est très important que l'intérêt de la population, où qu'elle soit à Kinshasa ou à Goma, qui reste encore une population congolaise, soit émis au centre du jeu.
Merci. Caroline Zanzoukasevita, votre mot de la fin?
Je voudrais réaffirmer ici que l'intérêt pour tout Congolais qui aime ce pays est de voir Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi être libérés de l'agression rwandaise. C'est pourquoi, effectivement, sur le plan méthodologique, le chef de l'État avait souhaité qu'il faut d'abord que nous discutions directement avec le Rwanda. Ça n'exclut pas effectivement la demande de tous les autres Congolais, y compris la Mouka, à se retrouver autour d'une table avec le gouvernement. Le président n'a jamais refusé. C'est la raison pour laquelle il a d'ailleurs effectué plusieurs voyages en Angola pour consolider effectivement la dimension politique de la question. C'est à ce niveau que je pense que nos frères de la Mouka devraient être apaisés et reconsidérer effectivement leurs revendications. Parce qu'en fait, la République démocratique du Congo, le président surtout, n'a pas la vocation d'exclure les Congolais des discussions sur la vie de la nation. C'est une question d'approche. C'est pourquoi on veut que tous ceux qui sont du côté de la République puissent réfléchir de la même manière, éviter de donner évidemment les leviers au Rwanda qui utilise certains Congolais pour continuer à avoir la même mise sur la République démocratique du Congo.
Merci Nico Mayengele, votre mot de la fin.
Merci beaucoup, il n'y a pas de justice sans paix. Nous devons privilégier la paix. Une fois la paix rétablie, nous allons revenir sur la justice. Et en ce moment-là, nous dirons pas de paix sans justice. Je tiens à rappeler ici que la multiplicité des processus, chers honorables, nous éloigne davantage de la solution durable de la crise. Il faut vite aller au processus de Kinshasa, qui est un processus intégrateur, c'est-à-dire intégrant tous les autres processus. Lorsque vous questionnez les aspects humanitaires de la crise, vous constaterez qu'il y a des millions de millions de déplacés de guerre, il y a des millions de réfugiés congolais qui souffrent. Ce qui importe, c'est la fin de cette crise, d'abord humanitaire, la crise sécuritaire et aussi la crise politique. Pour y arriver, nous devons aller vite, parce qu'on ne peut pas continuer à traîner les pieds pendant que les gens meurent. Nous avons déjà connu un génocide dans ces pays. Et votre méthode, votre façon de procéder nous éloigne de perspectives de paix durable. Voilà pourquoi vous devez reconsidérer votre approche pour intégrer ce que nous vous proposons et nous aurons la solution durable et définitive à la crise. Merci beaucoup.
Merci, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, honorable Karine Zanzu Kasevita, maître Nico Mayengele et maître Rigen Miviri. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé et à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique et Chembe Eloku qui a assuré le live de cette émission. À la présentation Guy Maté, merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.